Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Gilles Paris, qui vient nous parler de son nouveau roman, L'été des Lucioles, paru chez Louise d'Ormesson. Alors c'est Gilles Paris, avec lui on peut retrouver notre âme d'enfance. D'ailleurs, le petit bandeau le signale, cette histoire réveillera l'enfant qui sommeille en vous. Et ça, c'est un côté un peu magique. Et c'est d'ailleurs le cas sur ces quatre livres. Alors juste pour rappel, je rappelle les titres de vos premiers livres. Donc vous avez sorti en 91 « Papa et maman sont morts ». Déjà, ça annonçait un peu la couleur par rapport à l'ambiance qu'on peut retrouver dans vos autres livres. Mais ce n'est pas si simple. C'est pas si simple. Ensuite, en 2002, donc 10 ans après, vous avez publié « Autobiographie d'une courgette », gros succès de librairie. Ensuite, 10 ans après, à nouveau, vous avez sorti « Au pays des kangourous ». Et enfin, en début d'année, en 2014, « L'été des Lucioles ». Ce roman commence par cette phrase « J'ai deux mamans et un papa qui ne veut pas grandir ». Ce fameux petit garçon qui s'exprime, c'est Victor Beauregard, 9 ans. Déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce garçon ?
En fait, Victor, par rapport à mes narrateurs précédents, qui avaient tous 9 ans comme lui, est peut-être un petit peu plus futé, un peu plus malin. Il écrit d'ailleurs lui-même un roman qui s'appelle « L'été des Lucioles ». C'est le roman qu'il écrit, c'est le roman dans le roman. Il a une sœur adolescente qui s'appelle Alicia, qui a donc 5 ans de plus que lui. Alors, c'est vrai que dans la vie, 5 ans, ce n'est pas grand-chose quand on a 5 ans de différence, mais à cet âge-là, c'est très important. C'est ce qui fait toute la différence. Parce que quand on a 9 ans, on a envie de se fondre dans la masse et surtout de disparaître même dans la masse. Alors que quand on est adolescent, c'est le contraire. C'est l'âge rebelle, c'est l'âge où on veut être montré du doigt, on veut s'identifier, on ne veut plus du tout être dans la masse. Et d'ailleurs, dans le roman, ils se chamaillent parfois, ils se cherchent un peu. Alicia n'est pas toujours très gentille avec son frère Victor. Et en même temps, elle a beaucoup de tendresse pour lui. Il a deux mamans, en effet. Mais moi, je suis quelqu'un qui, même dans la vie d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à juger. Je trouve que c'est ce qui me rapproche des enfants de 9 ans. C'est-à-dire qu'à 9 ans, au fond, on ne juge pas, on essaye de comprendre. On est naïf dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que ce questionnement sans relâche qu'on a en soi, je trouve qu'on le perd plus on grandit, c'est-à-dire que plus on devient adulte et plus on perd cette innocence au fond et moins on ose poser des questions à voix haute finalement, et on perd cette candeur, on perd cette innocence, mais comme moi d'ailleurs d'une certaine manière. Sauf que j'aime bien cette idée de ne pas juger, et le fait qu'il ait deux mamans par exemple, eh bien il l'a intégré dans sa vie exactement comme un soleil dans un ciel bleu, c'est-à-dire que c'est tout à fait naturel et normal pour lui. Au fond, finalement, il a deux mères aimantes qui s'occupent de lui, qui font attention à lui. Pourquoi se poserait-il une autre question ? D'ailleurs, dans le roman, il ne s'agissait pas tout d'un coup de parler d'homoparentalité, d'entrer dans ce débat-là. Ce n'était pas du tout mon idée. Je n'avais aucune intention de laisser imaginer ou quoi que ce soit par rapport à ça. Je voulais que à travers les yeux d'un enfant, qu'on comprenne que pour un enfant, ce n'est pas très important. Au fond, finalement, ce qui est important, c'est l'amour qu'on lui donne. Il a un papa. Alors, le papa, il a un gros problème. Il a le syndrome de Peter Pan. Il refuse de grandir, littéralement. Il ne paye pas ses factures. Il laisse tout ça dans des sacs. Ça s'empile, littéralement. On comprendra d'ailleurs dans le roman, il y a une raison évidemment à ça. Et du coup, la mère s'est séparée de cet homme qu'elle aime encore. Et un an après leur séparation, elle a rencontré une femme peintre. Et comme dit Alicia, il fallait bien qu'il y ait un adulte qui veille sur sa mère. Il se trouve que l'adulte en question, c'est une autre femme. Mais à travers les yeux de Victor, elles sont surtout deux super copines qui font attention l'une à l'autre. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je le vois. Et dans mes romans, généralement, la plupart de mes romans, il y a toujours des thèmes de société, il y a des thèmes graves, il y a des thèmes légers, mais il n'y a pas de jugement porté. Moi, je cherche pas, je veux que le lecteur se fasse sa propre opinion, qu'il ait envie lui-même d'aller au-delà de ça. Parce que, vous savez, un roman, à un moment donné, il se termine, il y a une fin, mais pourquoi il y a une fin dans un roman? Au fond, finalement, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'on pourrait prolonger le roman une fois qu'il est fini. Dans sa tête, on peut imaginer une suite, on peut imaginer ce qu'on veut. Quand on a aimé un roman, il ne s'arrête pas parce que l'écrivain y a mis le mot fin. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve aussi. Et donc voilà, ce petit Victor, 9 ans, donc deux mamans, un papa qui n'est pas beaucoup là, qui est photographe, qui est souvent en voyage, une sœur Alicia assez rebelle, et une tante, la sœur de son père, qui est morte dans un accident de voiture, quelque part entre Villefranche et Roquebrune, sur ces routes très sinueuses, et dont on ne lui parle jamais. On lui a juste dit que c'était une mauvaise personne. C'est sa mère qui lui dit. Et il est très intrigué parce que finalement, s'ils vont tous les étés à Roquebrune-Cap-Martin, dans cette si belle résidence, c'est quand même un peu grâce à elle, puisque son père a hérité de cette résidence grâce à cette sœur décédée. Et dans cette résidence où il va chaque été, eh bien, il retrouve son meilleur ami qui s'appelle Gaspard, qui est un petit garçon de Lille qu'il ne voit que l'été. Bon, ils s'échangent toute l'année des textos sur les portables de leur mère. Et il retrouve une petite Justine, une petite fée qu'il adore, mais qu'il n'a jamais osé aborder jusque-là. Parce qu'elle a des parents un peu aristo, un peu coincés, une sorte de chaperon qui est tout le temps avec elle et qui l'empêche de l'aborder. Et puis Victor, il est quand même un peu timide, un peu, donc il n'ose pas trop l'aborder. Cet été-là, il va l'aborder. Et puis c'est un été surtout qui va vraiment changer sa vie et pas seulement la sienne.
Je voudrais aussi revenir sur l'âge de Victor, donc 9 ans. J'imagine que ce n'est pas anodin parce que c'est l'âge qu'ont à peu près tous vos protagonistes, en tout cas tous vos narrateurs. Y a-t-il une raison à cela?
Alors, la raison, il y en a plusieurs en fait. C'était ce que j'expliquais tout à l'heure, cette idée qu'à 9 ans, on ne juge pas. Mais ce n'est pas seulement ça. Je trouve que c'est un âge qui permet de dédramatiser les thèmes qui sont les miens. Je parlais de gravité tout à l'heure. Dans Autobiographie d'une courgette, c'est quand même au départ un enfant qui tue sa maman par accident, qui va se retrouver placé dans une maison d'accueil et qui va paradoxalement trouver l'amour qui lui a manqué enfant, une sorte de conte de fées à l'envers. Dans Papa et maman sont morts, c'est deux enfants qui perdent leurs parents et qui décident de se choisir un nouveau père et une nouvelle mère. Pourquoi on ne choisirait pas ses parents après tout? Voilà, c'était l'idée de mon premier roman. Et dans Au pays des kangourous, c'est un petit garçon qui va trouver son père recroquevillé dans un lave-vaisselle. Il va comprendre que son père ne va pas très bien, son père a une dépression. Donc vous voyez, mes thèmes ne sont pas toujours au départ comme ça, a priori. Ce sont des thèmes graves, ce sont des thèmes difficiles, ce sont des thèmes actuels, ce sont des thèmes... J'aime pas le dire le mot actuel parce que j'y prête pas très attention. En fait, c'est surtout des thèmes qui m'intéressent, mais qui, par la voix de l'enfant, trouvent une grâce qu'il n'aurait pas trouvé si j'avais écrit ça avec une voix d'adulte. C'est la voix de l'enfant qui dédramatise tout ça. En plus, je suis très fan de poésie. C'est pas par hasard que je cite Borges dans L'été des Lucioles et beaucoup d'autres poètes dont j'ai apprécié les vers et les textes. Et je trouve que l'enfant se marie parfaitement à la poésie. La langue française est extrêmement riche. Et dans la langue française, il y a énormément de quiproquos possibles. Et ça, je m'amuse énormément avec ça à travers mes 4 romans et à travers la narration de l'enfant. Et puis voilà, une fois de plus, c'est un âge qui fascine, qui me fascine, et je ne suis pas le seul, parce qu'il touche à ce qu'on a de plus profond en nous, cette part d'innocence qu'on a toujours en soi, cette part d'enfance qu'on a quand même encore en soi, malgré les difficultés de la vie, malgré les vies qu'on mène. Au fond, Victor dit dans L'été des Lucioles, à la fin du roman, la vie sans magie, c'est juste la vie. Et je trouve que quand on a cette part d'enfance en soi, la magie, on peut en mettre chacun un peu dans sa vie tous les jours, d'une façon très simple. Ça peut être une terrasse de café. Il faisait tellement beau aujourd'hui. Le simple fait, là, j'ai rencontré un journaliste tout à l'heure à la terrasse d'un café. Pour moi, c'était un peu magique. Voilà, c'était un moment de pause. C'était un moment. Voilà, je trouve que la magie, on peut en mettre simplement dans sa vie. C'est ça que je veux dire par là. Grâce à cette voix de l'enfant, dont je ne me lasse pas parce que je prépare là mon prochain roman que je vais commencer cet été. Ça sera encore un enfant. Et j'ai encore beaucoup de thèmes que j'ai envie d'aborder à travers la voix de l'enfant.
Et justement, est-ce qu'il y a des thèmes que vous interdisez de traiter?
Alors, il y a déjà un thème que je me suis toujours interdit à travers mes quatre romans, c'est que je me suis quand même rendu compte qu'un enfant de 9 ans en 2014 n'est pas un enfant de 9 ans il y a 10 ans ou 20 ans, puisque ça fait à peu près 20 ans que je publie des romans. Et surtout, je travaille beaucoup avec des enfants, je fais des rencontres dans des écoles, et j'ai des enfants d'amis à moi avec qui je travaille aussi sur mes romans parfois, pas tellement sur le langage mais plutôt par rapport à des situations. Quand je m'interroge, je suis un peu pointilleux, donc je voudrais savoir ce qu'en pensent les enfants et tout ça. Mais surtout, j'ai découvert un langage terriblement grossier à 9 ans, et ça c'est un truc que je m'interdis à travers tous mes romans. Et c'est vrai que mes quatre narrateurs sont incapables de dire les mots que les enfants de 9 ans disent aujourd'hui. Mais bon, ça c'est, voilà, je parle des gros mots d'ailleurs, on en parle dans l'été des Lucioles, mais voilà, c'est quelque chose que les enfants n'abordent pas. Et puis, je pense que tout ce qui serait de l'ordre qui ne me ressemblerait pas, c'est-à-dire tout ce qui serait de l'ordre du pathos, qui serait vulgaire, qui serait... c'est des thèmes, voilà, c'est des choses que je n'aborderai jamais. J'essaye de toucher à ce qui est de plus pur en chacun d'entre nous, à tout ce qui est de plus vrai. Moi, c'est l'humain qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé. Donc, c'est ce que j'essaie d'exprimer à travers mes romans. Donc, évidemment, de cela découle le reste. Ça ne m'intéresse pas. Le reste ne m'intéresserait pas dans ce sens-là.
Et est-ce qu'il vous est possible d'envisager de raconter une histoire à travers les yeux d'un personnage plus âgé ? Que ce soit même un adolescent ou un...
Ça viendra un jour. Alors, un adolescent, je ne crois pas. Parce que, justement, par exemple, si on prend l'autobiographie d'une courgette... j'ai beaucoup enquêté pour Autobiographie d'une courgette. C'est un livre qui m'a demandé beaucoup de travail parce que, au départ, c'est une nouvelle que j'ai écrite quand j'avais 14-15 ans qui s'appelait Icare et Camille. Et quand j'ai voulu en faire un roman, je me suis rendu compte que j'ignorais tout des maisons d'accueil. Et je travaillais chez un éditeur à l'époque. Il se trouvait qu'on publiait un juge pour enfants que j'ai rencontré. Et ce juge m'a emmené vers une association qui s'appelle Cognac Jet. Qui s'occupe beaucoup de maisons d'accueil et qui m'a envoyé vers une maison d'accueil. J'ai travaillé pendant un peu plus d'un an avec eux. J'ai rencontré les éducateurs, j'ai passé beaucoup de temps avec les enfants. Il a d'ailleurs fallu du temps pour qu'on s'apprivoise les uns les autres. La première fois que je suis rentré dans le bureau de la directrice en disant que j'avais publié un roman il y a 10 ans, et que je voulais écrire sur les maisons d'accueil, elle m'a regardé avec des yeux grands comme des soucoupes. Ça lui paraissait absolument improbable qu'on puisse écrire quelque chose sur sa maison d'accueil. Et même les enfants, ce n'était pas facile. Et même moi, j'avais des a priori un peu classiques. C'est-à-dire que, par exemple, la maison d'accueil en question, qui était près de Fontainebleau, est un magnifique château avec un parc, avec une rivière derrière. Et moi, j'étais persuadé qu'avec un endroit pareil, les enfants y étaient forcément heureux, parce que l'endroit s'y prêtait, les locaux s'y prêtaient. Et puis, je me suis rendu compte, au fond, que ces enfants n'avaient qu'une envie, quand ils pouvaient, le week-end, c'était de retourner chez eux, même si leurs parents se tapaient dessus, ou pire, parce que c'était tout simplement chez eux, et qu'ils considéraient le château comme une prison, et non pas comme une maison. Ce qui faisait toute la différence. Et j'ai commencé à comprendre ce genre de choses. Je partais avec eux, j'étais dans les cars qui les emmenaient à la piscine. Je suis retourné sur les bancs de l'école, parce qu'il y a pas mal de scènes qui se passent aussi à l'école primaire. Donc, il fallait bien que l'instituteur m'accepte aussi sur les bancs de l'école. Et puis, ça les a amusés, tout ça, les enfants. Donc, à un moment donné, on a fini par... un peu comme dans Le Petit Prince, on a fini par s'apprivoiser comme le renard et le petit prince. Et ça a été une belle expérience. Et je crois que sinon, j'y serais jamais arrivé.
D'accord. Et alors, pourquoi vous avez choisi Roquebrune Calmartin pour raconter votre histoire ?
Alors, pour l'été des Lucioles, en fait, ce qui est joli, c'est qu'au départ, j'avais jamais fait ça pour écrire un roman. Mais ce jour-là, bien avant de l'écrire, bien avant de savoir ce que j'allais faire, j'avais envie, après Au pays des kangourous, qui était un livre... où je m'étais permis de l'autofiction, ce que je n'avais jamais fait jusqu'avant. Je suis quelqu'un de trop pudique, je n'aime pas parler de moi. Je suis quelqu'un de secret, Agathe dirait mystérieux. Mais en tout cas, je suis pudique. Et donc, l'autofiction n'est pas pour moi. Il y a beaucoup d'écrivains qui s'y prêtent à ce genre. Pas moi, parce que ça a été très difficile pour moi, dans Au pays des kangourous, d'évoquer une période qui a été la mienne, des années passées, quand j'ai pas été bien. Il m'est arrivé de vivre ça, et j'avais envie d'en faire un livre, pas humoristique, mais on va dire léger sur ce thème-là. Donc j'ai voulu passer à autre chose. Et quand j'ai commencé L'été des Lucioles, je me suis dit, j'ai envie de quelque chose de plus lumineux, de plus léger. J'ai envie tout d'un coup d'écrire un roman qui serait comme une bulle dans laquelle on a envie de s'enfermer pour se protéger de tout à l'extérieur. Donc quelque chose qui fasse du bien au fond finalement. Et quand j'ai commencé, j'ai sorti une feuille de papier et j'ai écrit été, parce que je voulais que ça se passe pendant l'été, quand il fait chaud, quand il fait beau,
Du
même
coup, c'est la
trop,
canicule même, oui.
même la canicule, c'est vraiment avec des orages un
Ouais.
peu étranges. J'avais marqué Luciole parce que quand j'étais petit, ma grand-mère m'en avait fait voir et je trouvais que ces petits insectes lumineux la nuit, c'était quand même assez magique. Et donc ça relevait de la magie. J'avais écrit Jumeaux parce que ça fait très longtemps que je voulais inclure dans un roman deux jumeaux un peu mystérieux. Enfin, ça va ensemble, je trouve. Et enfin, j'avais écrit Chemin des douaniers parce que j'ai connu pas mal de chemins des douaniers, il y en a un peu partout en France. Je trouve que c'est un terrain de jeu inouï pour des enfants. Ça monte, ça descend, il y a des escaliers, il faut passer sous des arbres, il y a des paysages somptueux, grandioses, etc. Donc voilà. Et après, je me suis dit, chemin des douaniers, lequel je vais prendre? Et j'ai regardé tout simplement sur Internet, et j'en ai vu beaucoup. Et tout d'un coup, j'ai découvert qu'il y en avait un à Roquebrune-Cap-Martin. Et Roquebrune-Cap-Martin, il se trouve que je connaissais bien parce qu'il y a un très joli salon du livre qui a lieu tous les ans, début décembre. Sauf que les salons, vous savez, les auteurs, quand ils s'y déplacent, ils connaissent la direction, enfin, ils savent aller de l'hôtel au restaurant et du restaurant sous la tente, mais ils connaissent rien de la ville, au fond, finalement. Et je n'en revenais pas qu'il y ait un chemin des douaniers aussi important qui part de Roquebrune, qui aille jusqu'à Monaco. Donc, une fin d'été, j'y suis allé une première fois. J'y suis allé 4 fois au total pour écrire le livre. Parce que j'aime ça, moi, j'aime ce travail. C'est pas une enquête, mais je trouve que je suis assez d'accord avec un certain nombre d'écrivains quand on en discute ensemble. Je me sers très, très peu d'Internet. Je trouve que rien ne vaut d'aller sur place. Et d'ailleurs, si je n'étais pas allé sur place, je n'aurais pas découvert toute l'histoire de ces maisons, de ces villas, de cette résidence. Tout ça, je l'ignorais totalement avant d'y aller, et qui a donné le cadre total du roman. Donc, j'ai pris des centaines, je crois que j'ai pris 400 photos sur ce chemin des douaniers. J'ai été fasciné. La première fois que j'y suis allé, j'avais l'impression que le temps s'arrêtait sur cet endroit. S'il n'y avait pas eu quelques grillages et quelques poubelles, on aurait pu imaginer qu'on était dans les années 30 ou 40. D'un côté, il y avait le bleu profond de la Méditerranée qui était magnifique. Il y avait J'ai découvert bien après qu'au 19e siècle, on a importé des espèces végétales qui venaient d'Amérique du Sud, ce qui fait de cet endroit est très particulier parce qu'il y a des senteurs comme nulle part ailleurs. Bien sûr qu'il y a des palmiers, il y a des pins parasols, mais il y a de l'algave, il y a de l'aloès, il y a des pistachiers, vraiment des arbres qu'on ne voit nulle part ailleurs non plus, des plantes grasses qu'on ne voit nulle part ailleurs, et une senteur et un sentiment non seulement de bien-être, mais en même temps de mystère, parce que toutes ces villas qui ont été construites à la fin du 19e, on ne les voit pas sur le chemin des douaniers, elles sont sur la droite, elles sont cachées par une végétation extrêmement luxuriante. Et en fait, quand on découvre ces villas dans les livres ou dans les films qui ont été tournés dans ces villas, ce n'est pas des villas, c'est des palais démesurés qui ont été construits donc à la fin du 19e, le premier par l'impératrice Eugénie. Et on ignore complètement ça quand on se promène sur ce chemin des douaniers. Et j'aimais bien cette idée de mystère. Voilà. J'ai trouvé dès le départ, qu'en me promenant sur ce chemin des douaniers, j'avais trouvé un cadre, j'avais trouvé un endroit, un peu comme j'avais trouvé ma maison d'accueil avec Autobiographie d'une courgette, j'avais trouvé un lieu après, à moins d'inventer une histoire, à partir d'un cadre existant.
Oui, puis si vous consultez le site internet officiel de Gilles Paris, vous avez justement pour bien s'imprégner de cette magie quelques photos prises sur le terrain et en dessous quelques phrases tirées du roman qui correspondent aux
Ah,
photos. Ça, c'est vraiment chouette comme idée, hein,
ouais, ça
ça.
c'est les éditions Héloïse d'Ormesson qui ont eu cette idée-là, parce qu'ils ont fait un très joli booklet au départ, et ils se sont servis de photos que j'avais prises, et ils sont allés rechercher dans le roman, Et ça, je trouve que c'est un joli cadeau qu'ils m'ont fait. Ils sont allés rechercher dans le roman des phrases qui correspondaient aux images que je leur avais données. Ça, c'est une idée d'eux.
Je voudrais revenir sur l'ensemble de votre œuvre. Donc, vous écrivez, en tout cas, vous avez publié à partir de 1991, donc 4 romans. Est-ce que vous avez constaté une sorte de changement générationnel entre tous ces personnages, entre tous ces enfants? Est-ce que l'enfant en 91, c'est le même que celui de 2014?
Non, tout a changé, tout a changé. Bien sûr qu'un enfant, ce que je disais tout à l'heure, un enfant de 9 ans en 2014 n'a rien à voir avec un enfant d'il y a 20 ans de 9 ans, parce que tout a changé, l'éducation, les jeux. Ça n'a plus rien à voir. Je crois que même moi, quand j'avais 9 ans, ça n'a rien à voir non plus. Donc j'ai essayé toujours, à travers mes romans, de donner une forme de... On pourrait toujours un peu situer mes romans dans certaines périodes, mais au fond, finalement, j'aime bien cette idée d'intemporalité. C'est-à-dire que, au fond, mes romans ne sont pas datés, ils n'ont pas d'époque réelle. Ils pourraient se passer il y a 10 ans, il y a 20 ans. Ils ne sont pas obligés. Bon, peut-être l'été des Lucioles est peut-être plus actuel, mais dans l'idée, j'aime bien ce sentiment d'intemporel. Voilà, je cherche quelque chose. Quand je vois les enfants, que je discute avec eux, que je cherche des choses, par exemple, dans un petit détail, dans l'été des Lucioles, Victor ne sait pas d'où il vient. Il a 9 ans, si c'est un roman qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est crédible qu'un enfant de 9 ans n'ait jamais entendu parler de la petite graine, par exemple ? Eh bien, quand j'étais à Nice l'année dernière, j'ai fait une rencontre avec des écoles et j'ai posé la question aux enfants de la classe. J'étais très surpris de leur réponse. Il y en a beaucoup qui ignoraient d'où ils venaient. Et on est en 2014, donc c'est les cigognes, les choux, il y a des tas de mômes qui y croient encore. Voilà, bah, je trouve ça trop mignon. Donc, je veux dire, moi, je préfère cette version-là à la version actuelle, quoi. Je trouve ça beaucoup plus joli, ils ont bien le temps d'apprendre tout ça. Et pourquoi pas, à 9 ans, croire encore aux cigognes et aux choux. Voilà, et ça, c'est quelque chose que j'aime d'intemporel. Et quand je l'entends de la bouche de plusieurs enfants, j'estime que c'est suffisamment, entre guillemets, universel pour que je le mette dans un roman. Il y a des choses que j'ai jamais mis dans mes romans. Un jour, je me souviens, c'était pour Au pays des kangourous. Je demande à un enfant, je lui dis, est-ce que les marques ont une importance pour toi ? Est-ce que, par exemple, tu bois de la Vittel ou tu bois de l'Evian ou est-ce que tu bois de l'eau du robinet ? Et l'enfant me regarde un peu comme ça, un peu bizarre. Il me dit, non, les marques, non, ça n'a pas d'importance, mais le PHP, beaucoup. Et je le regarde et je savais pas ce que c'était que le PHP. J'ai appris que c'était donc le taux d'acidité dans l'eau. Mais alors après, évidemment, l'enfant a des parents très écolos, donc je pense qu'ils l'ont beaucoup influencé, en tout cas dans cette idée-là. Ils lui ont apporté ça, mais c'est pas assez universel pour le mettre dans un livre. C'est drôle à raconter devant vous, mais pas assez pour le mettre dans un roman. J'essaye que ce que je sors de mes propres enfants, que les enfants me racontent, que ça puisse toucher des gens. Et qu'au fond, je me rends compte par exemple beaucoup dans les salons, donc quand je me déplace en province, et que les gens viennent à moi et qu'ils ont lu certains de mes livres et qui me disent par exemple que ça a fait remonter des choses en eux, de l'enfance qu'ils pensaient avoir perdue ou qu'ils ne pensaient plus avoir en eux. On ne peut pas me faire un plus joli compliment que ça. Et je crois que pour ça, il faut être très sincère dans ce qu'on écrit. Il faut être très juste et très vrai. C'est ce que j'essaye à travers mes romans qui sont tous les quatre très différents. On me demande souvent s'il y en a un que je préfère. C'est comme si on demandait à un père lequel de ses enfants il préférait. Et je les aime tous les quatre. Et
vous n'avez pas quand même un personnage dans vos romans que vous préférez, ou en tout cas qui vous ressemble le plus
Non, je ne cherche pas, parce que je ne cherche pas l'autofiction, comme je le disais tout à l'heure. Donc, j'aime, dans l'été des Lucioles, j'aime beaucoup la baronne, qui est une vieille dame qui est la plus ancienne résidente de la résidence du Cap-Martin où Victor passe ses vacances. Ça fait très longtemps que je voulais raconter dans un roman à quel point le troisième âge et le premier âge se ressemblent. Il se trouve que la baronne est une baronne à la vie blessée. Elle a perdu son mari et ses enfants qui sont morts dans un accident. Et elle détient une grande partie de la vérité. Elle a connu la fameuse Félicité, la tante de Victor. Elle détient une partie des clés du mystère. Et elle va beaucoup apporter à Victor. Et Victor va le lui rendre aussi à la fin. Et j'aime beaucoup cette idée-là, de ces échanges-là, qui pourraient être des échanges qu'on peut imaginer entre un grand-parent et ses petits-enfants. Il se trouve qu'ils n'ont pas de lien de parenté dans le roman, mais il y a une complicité incroyable. Ils se retrouvent sur un banc dans cette résidence et ils ont des conversations incroyables parce que la baronne va lui dire des choses même très personnelles parce qu'elle se sent bien avec lui, parce que c'est l'été, parce qu'il y a un peu de légèreté. Et tout d'un coup, en même temps qu'elle lui dit les choses, elle va se rendre compte qu'elle va trop loin parce qu'elle est avec un enfant de 9 ans et à un enfant de 9 ans, on ne lui dit pas forcément tout et elle va tout lui dire.
En même temps, cet enfant l'emmène aussi dans son univers propre. C'est-à-dire qu'il apprend à cracher.
Alors oui, il y a tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, il va lui dire à un moment donné, il va lui dire, j'ai rien de magique, j'ai rien d'extraordinaire. Et elle va lui dire si, elle va lui dire bien sûr que si. Elle va lui dire, tu sais écouter et ça, c'est magique. Et c'est vrai que dans la vie, on sait ce que ça représente de savoir écouter l'autre, ce qui n'est pas gagné dans nos sociétés actuelles. Donc c'est vrai que par rapport à ça, et puis bon, il faut mettre toujours un peu d'humour dans tout ça, et en effet, Victor va lui apprendre à cracher, ce que jusqu'à présent la baronne n'avait jamais fait, et elle va le faire avec un vrai plaisir. Et je pensais en écrivant à cette scène de Titanic qui m'a toujours bien amusé dans le film, bien sûr, où le personnage de DiCaprio apprend à la jeune fille à cracher. Je pensais à cette scène, c'est comme ça que l'idée m'en est venue d'ailleurs dans le roman. Enfin voilà, c'est anecdotique, mais voilà, c'était amusant.
Un autre de vos personnages qui est très touchant dans L'été des Lucioles, c'est Pilar.
Alors, c'est ce que Pilar, par exemple, ça je peux le dire, c'est, vous voyez, là je vous donne des secrets de fabrication du roman. Pilar existe, mais il se trouve que dans la vie, ce n'est pas une femme, c'est un homme. Et c'est un ami d'enfance qui s'appelle Manuel Cancel, qui est un peintre argentin extrêmement talentueux. Manuel est de ma génération et il a fui à un moment donné l'Argentine quand il était petit avec ses parents, parce que évidemment la politique faisait que... Et ses parents ont tout perdu. Et il venait d'une famille plutôt aisée et il a toujours eu cette nostalgie de l'enfance. Il est devenu peintre, il expose, il fait des tableaux magnifiques. Il m'a prêté, entre guillemets, ces tableaux, qui sont les tableaux que je décris dans le roman, avec son accord. Il m'a énormément aidé à créer le personnage de Pilar, parce que même si c'est un personnage important, mais je ne voulais pas donner des poncifs sur l'Argentine, je voulais que les choses qui soient évoquées par rapport à l'Argentine, les mots argentins, je voulais que tout sonne juste, les lieux où elle a vécu enfant, et ça, Manuel a été formidable, il m'a vraiment apporté tout ça. Et je trouve que c'est important parce que Pilar se réfugie dans l'enfance, elle est très nostalgique de cette enfance perdue et elle peint exactement comme Manuel. C'est-à-dire que Manuel n'a jamais mis d'être humain dans ses peintures, il ne peint que des paysages d'enfance, d'herbe. Si vous tapez Manuel Cancel sur internet, vous trouverez ces tableaux et franchement regardez-les parce qu'ils sont somptueux. Et moi je dis qu'il passe des heures et des heures et des heures à peindre des milliers de brins d'herbe. Moi ça me fascine, c'est des tableaux hyper réalistes et magnifiques et somptueux vraiment. Et c'est ce que fait Pilar. Et le seul autoportrait qu'a fait Manuel, et qui est un autoportrait décrit d'ailleurs dans L'été des Lucioles, eh bien c'est simplement son ombre qui couvre l'herbe. Et c'est le seul autoportrait qu'il s'est autorisé à peindre. Et je trouve ça très joli dans l'idée d'à la fois de la discrétion, du retrait, et juste du talent de création, la création en elle-même, sans s'impliquer davantage.
Et justement, Pilar pense que le meilleur moment pour l'inspiration vient juste avant de s'endormir. Est-ce que c'est quelque chose que vous partagez, vous?
Complètement. Ça, c'est très, très, ça, c'est vraiment moi, ça.
Vous écrivez quand?
Non, mais j'adore, parce que très souvent, par exemple, dans les périodes où je pense à mes prochains livres, ou même dans les périodes où je suis dedans, je trouve que le meilleur moment de l'inspiration, c'est juste avant que je m'endorme. C'est-à-dire que la lumière est éteinte, je suis dans ma chambre, j'ai quelques minutes avant de m'endormir et je pense à mes personnages et je pense à mes histoires et je trouve toujours de formidables idées avant de m'endormir. Et après, j'essaye de m'en souvenir le lendemain.
Enfin, c'est pas un secret, en plus d'être romancier, donc vous travaillez également dans la communication et l'événementiel. En quoi ce métier-là vous aider à écrire, ou est-ce que au contraire ça, vous essayez de prendre la distance par rapport à ça?
Alors en fait, il y a une passerelle entre les deux. Cette passerelle, c'est que je sais ce que ressent un écrivain avant de publier un livre. Je sais ce qu'il en attend, je connais ses angoisses, je connais ses joies, je connais ça par cœur. Et je pense que c'est ce qui me rapproche des auteurs que je défends, parce que je les défends avec beaucoup de passion, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience. Et après, j'essaye de bien séparer les deux univers, ces deux métiers très différents, à condition qu'écrire soit un métier. Ça, c'est encore une conversation, qu'on pourrait avoir à ce sujet-là. Le métier que je fais, qui me fait vivre, et le métier de communication, écrire est même au-delà de la passion pour moi. Si je n'écrivais pas, je serais vraiment un homme malheureux. C'est l'écriture qui m'a rendu heureux.
Il y a également un thème assez récurrent dans votre œuvre, en tout cas qu'on retrouve dans celui-ci également dans Le pied des kangourous, c'est celui du spiritisme. Et je voulais avoir votre point de vue personnel là-dessus. Est-ce que c'est une conviction, enfin quelque chose
Non.
auquel vous croyez, ou c'est juste pour...
Quand j'étais petit, j'avais ma grand-mère paternelle qui ressemble étrangement à Lola dans Au pays des kangourous, d'ailleurs qui est son portrait craché. En fait, j'ai une histoire d'enfance un peu étrange que je peux raconter parce qu'elle est très proche d'Au pays des kangourous. En fait, ma grand-mère paternelle n'a jamais épousé mon grand-père. Et parce que mon grand-père venait d'une famille très puissante, très riche, et que les deux familles n'envisageaient pas un mariage possible. Et mon père a été reconnu par son père qu'à l'âge de 7 ans, ce qui fait que j'ai failli ne pas porter le nom de Paris, mais le nom de ma grand-mère, si mon grand-père n'avait pas reconnu mon père en question. Et ce grand-père a dilapidé, comme dans Au pays des kangourous, il a dilapidé toute sa fortune. C'était un grand joueur qui passait sa vie au casino. Il a dilapidé toute sa fortune aux courses et au casino, exactement comme dans le roman. Et ma grand-mère était une femme de tête, était une femme forte que j'adorais. Elle est morte quand j'étais adolescent. Mais j'adorais aller chez elle parce que d'abord j'avais le droit de dormir dans son lit. J'avais le droit, grosso modo, d'ouvrir tous les paquets de bonbons et de gâteaux que je voulais. Et puis surtout, c'était une grand-mère hors norme. C'est-à-dire que elle m'emmenait chez les forains, qui étaient ses amis, qui m'apprenaient à tirer à la carabine. À mon âge, j'avais 8-9 ans à l'époque. Elle me faisait voir elle avait fait du marché noir pendant la guerre. Voilà. Elle avait tenu une boutique de lingerie. Elle vendait de la dentelle et des choses comme ça. Vous voyez, c'était vraiment très particulier. Et j'adorais cette grand-mère qui a été incroyable avec moi et qui était absolument ce qu'on appellerait aujourd'hui médium. C'est-à-dire qu'elle avait toute une ribambelle de copines, que j'appelle les sorcières dans Au pays des kangourous, et elle faisait tourner les tables, vraiment, elles appelaient les esprits, et j'ai vu des choses enfant chez elle qui m'ont vraiment, pas traumatisé, mais qui m'ont quand même, à 9 ans, que je suis pas prêt d'oublier, j'ai vu des tables pas seulement se soulever, mais j'ai même vu une table passer d'une pièce à l'autre, vous me croirez pas, mais je vous promets que j'ai vu ça de mes propres yeux d'enfant. Donc c'est des choses que j'oublie pas. Et puis plus tard, je devais avoir 13 ans, donc un an avant qu'elle meure, elle a fait pire que ça. Elle s'est dit, je vais faire l'éducation sexuelle de Gilles. Et elle m'a emmené voir un film pornographique. Et donc, elle m'a fait passer sous la caisse, puisque je n'avais pas l'âge, évidemment, d'entrer dans un cinéma comme tel. Et alors, je me souviens, c'était un film. Alors, ça se passait dans un immeuble, et en gros, tout le monde couchait avec tout le monde, un peu à tous les étages. Et je ne comprenais pas grand-chose, honnêtement, à tout ce qui se passait. Mais je me souviens d'une chose, je me souviens de ma grand-mère, qui était très droite, qui avait son petit sac noir sur ses genoux, et qui avait sorti de son petit sac noir un couteau qu'elle tenait fermement entre ses mains. Donc il n'y a pas un gars qui est venu s'asseoir à côté. On était tranquille. Et puis quand on est sorti du cinéma, elle m'a dit, t'en as pensé quoi? Je dis, bah, pas grand-chose. Et puis je suis rentré à la maison. Évidemment, la première chose que j'ai dit à mes parents, je dis, ah, mamie m'a emmené voir. Et là, ça a été le drame total. Ma mère l'a appelé en hurlant, comment tu as osé faire une chose pareille? Enfin bon. Mais c'était une grand-mère formidable. Voilà, c'était pour vous dire
Ça a
ça.
l'air, oui. Dans votre livre, enfin, c'est quelque chose qui arrive à plusieurs reprises, vous parlez d'un recueil de poèmes, donc de Borges,
Né.
La Rose Profonde. Pourquoi ce recueil-là en particulier, sachant que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même quelque chose de très très court,
Oui.
d'ailleurs même aujourd'hui assez difficile à trouver.
Oui, c'est quelque chose. En fait, Borges était évident en soi parce qu'il fallait au départ qu'il y ait un lien très fort entre les deux mères, c'est-à-dire entre Claire, qui est libraire, c'est important de le dire,
Oui.
et Pilar. Et en fait, elles se rencontrent un an après que Claire ait décidé de se séparer de son mari. Et elles se rencontrent parce que Pilar expose dans la ville où vit Claire et ses enfants, c'est-à-dire à Bourg-en-Bresse, où elle tient une librairie. Et elle rentre dans cette librairie et Claire lui parle de Borges. Et donc il y a un lien évident qui se crée entre elles, parce que Pilar, comme on l'a dit, est d'Argentine. Et évidemment, l'œuvre de Borges. Alors j'ai cherché dans l'œuvre de Borges quelque chose, justement, qui ne soit pas. Parce que à chaque fois, évidemment, qu'on parle d'un auteur, on va citer quelque chose d'évident. Et justement, j'avais envie que ça ne le soit pas. Il fallait attraper un texte de Borges que je trouve absolument magnifique. Que l'enfant d'ailleurs ne comprendra pas, parce qu'à un moment donné, sa mère essaiera de lui faire aimer Borges. Elle va lui citer tout un passage.
Vous pouvez nous le citer peut-être?
Voilà, c'est là. Et l'enfant, évidemment, à 9 ans, ne peut pas comprendre à ce point la poésie de Borges. Mais moi, je trouve que c'est un recueil magnifique. Donc là, la mère parle, elle retire ses lunettes et elle dit. C'est un recueil de poèmes que l'auteur a publié dans les années 70. C'est très beau, écoute. Je suis aussi une épée, sa mémoire, celle d'un soleil seul et déclinant, qui se disperse en or, ombre, néant. Je suis celui qui voit les proues du port. Je suis ce peu de livres, de gravures, fatigué par le temps et son usure. Voilà, moi je trouve ça magnifique. Il y a à la fois tout de la poésie. De la tristesse et en même temps il y a une espèce de c'est comme si c'était totalement enveloppé quoi je veux dire il y a pas une once de graisse quoi il y a pas un mot qui manque il y a pas une virgule mal placée quoi c'est magnifique
Et puis Victor à cela répond oui, c'est très beau, mais je ne comprends pas tout.
voilà
Et ouais, c'est, je trouve ça joli. Enfin,
oui parce
on
que
sent
c'est
qu'il est sensible à ça, mais en même temps,
et
il n'a pas
puis
les clés
Et puis,
pour
il
tout
a autre
saisir.
chose qui le préoccupe surtout à ce moment-là, c'est que Pilar vient de s'en aller, pour une
Oui.
raison qu'on apprend dans le roman. Et donc, son obsession, c'est de savoir si Pilar va revenir. Voilà.
Donc,
Donc, il a un côté plus pragmatique des
c'est
choses.
ça, oui. D'ailleurs, la lecture, c'est quelque chose, c'est un thème aussi récurrent dans ce livre, en tout cas, par rapport au métier de la
Alors.
mère, libraire.
Oui, et puis c'était difficile au départ parce que je me suis dit, j'avais très envie, je vais vous dire, de rendre un hommage discret et très sincère au libraire que je fréquente quand même depuis des années. Et je vois bien le mal qui se donne quand même pour faire aimer les livres, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Il y a les cartons qu'il faut descendre des camions, il y a plein d'autres choses qu'on ignore, voilà, du métier d'un libraire. Et puis
Je
d'autres choses,
confirme.
voilà, et puis d'autres choses qui sont encore, voilà. Bon, j'en ai beaucoup parlé avec une libraire que j'aime beaucoup et dont je me suis inspiré évidemment dans le roman qui est Lydie Zanini, qui est libraire à Bourg-en-Bresse. Mais elle est toutes les libraires à la fois aussi, voilà. C'est pas cette idée-là. Après, j'étais gêné dans l'idée d'avoir à citer, si vous voulez, un certain nombre d'écrivains, de faire une espèce de comment on appelle ça, une sorte de panacée, voyez, une sorte d'album ouvert, de cité. Je me dis pourquoi cela et pas d'autres, au fond, finalement. Borges, il avait sa place par rapport à Pilar, mais après, il y avait plein d'autres écrivains que j'aime. Moi, quand j'étais jeune, je lisais, je relis encore, j'étais fan de Tennessee Williams, de Sagan. Il y a plein d'auteurs que j'ai lus et relus et que j'ai découverts à travers les années, les âges, et je lis beaucoup. De par mon métier et de par. Parce que j'aime tout simplement ça. Mais dans le roman, voilà, je me dis pourquoi je citerais des auteurs contemporains et si je mets cela, pourquoi pas les autres? Donc je me suis dit en dehors de Borges, je vais faire un clin d'œil, je vais faire un truc, au fond finalement, je ne vais pas parler d'autres auteurs, hormis des choses qui sont évidentes par rapport aux enfants, aux adolescents. Donc évidemment, Harry Potter est cité, n'est-ce pas Loïc? Et d'autres, voilà, des choses qui sont un peu évidentes. Et
Ou
puis
inventer
après,
peut-être aussi, non?
hein?
Inventer aussi, non? Ce certain Paul Ravine.
Alors, Paul
J'ai beau chercher,
Ravine,
j'ai pas trouvé.
il n'est pas, en fait, il n'est pas inventé, Paul
Il n'est
Ravine.
pas inventé.
Paul Ravine, en fait, mais ça, c'est vraiment, alors je peux vous dire, mais ça m'amusait de le mettre dans le roman.
Ah oui.
Paul Ravine, il existe. Paul Ravine, c'est le père de Simon dans Au pays des kangourous.
Ah
Il s'appelle Paul
oui,
Ravine.
d'accord, c'est
Voilà.
un petit clin d'œil.
Voilà, c'est exactement un clin d'œil à mon précédent roman. Mais c'est très difficile pour quelqu'un de trouver ça, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une. C'est un clin d'œil, quoi. Voilà, c'est un clin d'œil à ce que j'ai écrit auparavant. Mais c'était très private joke, quoi.
Je voudrais revenir sur votre pratique de l'écriture. Est-ce que, comme Victor ou vos autres personnages, vous avez commencé à écrire à 9 ans? Ou est-ce que c'est déjà une idée qui commence à émerger en vous?
Oui, je me souviens. Alors peut-être pas 9 ans, mais 10 ans, j'avais commencé à écrire un journal intime parce qu'il y avait des tas de choses que je voulais raconter, mais pas forcément dire à ma sœur. J'avais une sœur aînée de 2 ans et mes parents. Donc j'avais commencé à écrire un journal intime et puis j'avais trouvé une super cachette. Mais mon père l'a trouvé, la fameuse cachette. Et alors le simple fait qu'il ait lu des choses intimes quand j'avais 10 ans, j'ai brûlé le journal. Et puis, à partir de l'âge de 12 ans, j'ai commencé à écrire des poèmes, des nouvelles, des bouts de nouvelles surtout, parce que les vraies nouvelles, je les ai commencées vers 13-14 ans. Mais quand même, déjà, ça me travaillait beaucoup l'écriture, mais j'en parlais absolument à personne, personne. C'était vraiment. Je faisais ça le soir dans ma chambre, je faisais.
Comme Victor, en fait, vous
Ouais,
écriviez
vraiment,
à
c'était.
l'abri des regards.
Et longtemps d'ailleurs, parce que quand je suis rentré dans l'édition. Il y a 30 ans exactement, j'ai attendu 5 ans avant de montrer mes textes. Les 5 premières années, pour moi, c'était impossible de franchir le cap et de les montrer à quelqu'un. Voilà.
En même temps, vous parliez justement de clin d'œil par rapport à vos précédents romans, mais aussi des clins d'œil par rapport à des personnes qui ont été importantes pour vous. Donc, vous avez parlé de la mère libraire, mais aussi de cette fameuse école dont vient où vient le Victor,
Ouais,
Victor-en-Bourg-en-Bresse.
ouais.
Je voulais savoir, enfin, déjà, est-ce qu'eux sont au courant de ça, de votre
En
ce
fait,
projet-là ou
c'est toujours pareil, c'est-à-dire que pour les très rares séquences qui se passent à Bourg-en-Bresse, j'ai fait appel à Lydie, qui est donc libraire là-bas, qui a une très
Oui.
belle librairie qui s'appelle la librairie du théâtre. Bon, Lydie Zanini, pour ceux qui la connaissent, est une libraire qui se donne un mal de chien pour les livres, les auteurs, et qui est capable d'inviter le même auteur 3 fois dans la même année, si vous voulez. C'est pour vous dire à quel point elle s'investit. Et puis elle est très très active sur les blogs. Elle a un blog. Elle est très active. C'est elle qui m'a raconté un peu la manière dont elle travaillait, et le personnage de Claire, c'est vrai, lui ressemble énormément. Mais après, c'est elle qui m'a aidé par rapport à Bourg-en-Bresse. Quand j'avais des doutes sur certains passages, j'appelais Lydie, je lui disais, est-ce que là, tu crois que je peux mettre ça? Est-ce que s'il se balade dans tel parc, elle me dit, oui, mais fais attention parce qu'il y a des chiens qui sont tenus par un gardien. Donc voilà, tout ce qu'elle me disait, je le prenais et je l'englobais. C'est toujours comme ça que j'ai conçu d'ailleurs une partie de mes romans. Parce que si je décide, dans un prochain roman, que le roman se passera à Bordeaux, ben, il faudra que je vienne ici quand même passer un certain temps. Je crois que sinon, je n'arrive pas à. Il a fallu que j'aille vraiment aussi à Bourg-en-Bresse, alors qu'il y a, il y a quoi? Il y a 10 lignes sur Bourg-en-Bresse, hein, pas plus, puisque tout le roman se passe plutôt là-bas. Mais j'ai dû y aller quand même pour être sûr que les lieux que je décrivais étaient fidèles à ça. Je pense pas que tous les écrivains aient cette obsession. Il y en a beaucoup qui travaillent sur Internet. Moi, je sais que je peux pas travailler sur Internet. Il faut que j'aille sur les lieux.
Et les jumeaux dont on n'a pas vraiment, enfin, dont on n'a pas encore trop parlé.
Ouais.
Après, je suis pas sûr qu'on puisse vraiment en parler sans dévoiler
Non,
une clé
on peut dire simplement
importante.
que Victor, dans cette résidence, va rencontrer, en se promenant sur le chemin des douaniers, 2 jumeaux très étranges qui ont son âge et qui vont lui faire découvrir ces fameuses villas dont je vous parlais tout à l'heure. Ils ont dans leur besace des clés qui leur permettent de rentrer par l'arrière des villas. Et il va y avoir une relation assez curieuse entre ces jumeaux et les enfants, puisque Victor va entraîner Gaspard, son ami, et Justine, à qui il va enfin oser parler. Et les jumeaux, ça c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, la jumellanité, depuis longtemps. J'avais vu pas mal de documentaires et de choses autour de ça. Ça me fascine évidemment, comme beaucoup de gens. Mais quand j'ai créé les jumeaux, en fait, j'avais deux modèles vivants qui sont deux blogueurs formidables, qui s'appellent Tom et Nathan, comme dans mon roman. Ils ont juste 16 ans aujourd'hui. Ils tiennent chacun un blog, ils lisent à peu près entre 80 et 100 livres. Alors c'est vrai, quand on dit que les ados lisent peu, moi ça me réjouit d'entendre ça. Puis ils sont pas tout seuls. Il y en a un à Bordeaux qui s'appelle Théo Huyard, qui est un garçon que j'adore
qui fréquente notre club ado.
Et qui est très actif.
Oui.
Voilà, et c'est toute
on
une
connaît.
Bande de garçons que j'adore vraiment. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si l'oncle des jumeaux dans le roman L'été des Lucioles s'appelle Théo. Il s'appelle Théo à cause de Théo Huard. Et j'adore ces adolescents qui se donnent vraiment un mal de chien, quoi. Voilà. Et donc, j'ai appelé un jour Théo et Nathan. J'aurais dit, voilà, je suis en train d'écrire un roman. Il va y avoir deux jumeaux. J'aimerais bien leur donner vos prénoms. Et puis, j'aimerais même aller au-delà. J'aimerais que les deux jumeaux vous ressemblent, quoi, d'une certaine manière. Mais j'ai besoin d'en savoir plus sur vous, et non seulement sur vous, mais sur l'âge que vous aviez il y a 6 ans. Et donc, ils en ont parlé à leurs parents. Les parents ont voulu me rencontrer. Ils sont venus à Paris. Ils habitent à La Rochelle, en fait, Tom et Nathan. Donc, les parents sont venus me voir à Paris. Donc, c'était drôle de déjeuner avec eux et leurs parents. Et puis, ça s'est formidablement passé. Et donc, j'ai pu travailler avec Tom et Nathan pour que les jumeaux aient de l'épaisseur. C'est ça l'idée, en fait. Si vous voulez, dans un roman, même si on invente, même si l'idée est quand même de vous raconter une histoire et d'essayer de vous entraîner à travers une histoire, il faut que tout faut que ça sonne juste, voilà. Et les jumeaux, si j'avais écrit n'importe quoi à propos de deux jumeaux, ils n'auraient pas été à la fois aussi inquiétants, aussi attendrissants, aussi agaçants et finalement aussi bénéfiques qu'ils vont l'être à la fin. Donc je crois que ce qui était important, c'est de les nourrir de l'intérieur, et je le dois beaucoup à ces deux jumeaux vrais qui portent le même prénom.
Et ils sont aussi calés en histoire, en vrai ou...
Non, ils n'aiment pas trop l'histoire. D'ailleurs, je l'ai dit dans une interview, ils étaient un peu vexés, mais ils ne sont pas trop fans d'histoire. Non, ils sont fans de littérature, surtout, vraiment. Ils sont incroyables. Alors, ils ont la littérature de leurs âges, c'est-à-dire ils ont une littérature extrêmement fantaisie, qui correspond à ce que lisent les adolescents quand même aujourd'hui. Mais de plus en plus, je me rencontre à travers leur blog, ils s'intéressent à la littérature, à des romans contemporains. Ils rentrent de plus en plus, c'est l'âge où ils vont commencer vraiment à s'intéresser de près à la littérature. Donc, et ça se sent à travers leur blog qui évolue d'une façon incroyable depuis un an.
À suivre donc.
Ouais.
Et si ce n'est pas trop indiscret, qui est ce fameux Laurent Serre à qui vous dédiez tous vos romans? Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein.
Ben là, j'utiliserai le Joker,
le
comme on
Joker.
Dit.
D'accord, ça restera le côté mystérieux.
Voilà, ça sera le côté mystérieux.
Le livre.
Exactement.
Alors, ça se voit clairement que vous êtes un joueur, hein, avec vos romans. Hein. Et j'aime bien terminer mes petites interviews, justement, avec les écrivains les plus joueurs, sur une sorte de petite... Bon, on va appeler ça par facilité un petit portrait chinois ou un questionnaire de Proust.
Allez-y.
Voilà. Donc, il y a juste une petite dizaine de questions, comme ça, en rafale. Alors, si vous étiez donc un romancier en dehors de vous, vous avez déjà donné un petit élément de réponse, mais là, si vous devez en choisir qu'un.
Saint-Exupéry.
Ah oui. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un livre qui.
Le Petit Prince, évidemment.
Ah, mais oui.
D'ailleurs, c'est un livre que j'ai pas très loin de moi, dans ma table de chevet, et que je relis parfois assez souvent. Et je trouve que c'est incroyable,
ouais,
la modernité de ce livre et sa justesse par rapport aux époques. On a l'impression qu'il vient d'être écrit et il est toujours. Et je pense que dans 20 ans ou 30 ans ou 50 ans, ça sera la même chose.
Ouais, complètement temporel, oui.
Ouais.
Si vous aviez un pouvoir magique,
je ne ferais qu'écrire.
Et si vous deviez rester bloqué sur un âge de la vie, ce serait lequel?
Celui que j'ai aujourd'hui,
celui
ça me va très bien.
Aujourd'hui.
Oui, je suis très. Moi, honnêtement, j'ai pas. Je trouve que c'est bien de vieillir aussi. Moi, je suis beaucoup plus heureux. J'ai 55 ans. Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que je l'étais à 20 ou 30. Voilà, c'est fait partie de ces générations où on apprend à travers les épreuves. C'est pas. Je me dis, dans la vie, on a tous des moments difficiles, mais c'est pas tellement les épreuves qui comptent, c'est ce qu'on en fait. Et même si j'ai pas tout réussi, je suis assez heureux de ce que j'ai fait des moments difficiles et ce que j'en ai fait. Donc, je m'aime bien à mon âge. Voilà, je trouve que c'est assez important de s'aimer à son âge.
Si vous étiez un animal,
un éléphant.
Ah.
Je serai un éléphant parce que, oui, parce que pour plein de raisons. C'est-à-dire que j'ai vu des documentaires absolument incroyables sur des éléphants en Asie qui ont fait traverser des bras de rivière entiers. On leur fait porter des choses extrêmement lourdes sur le dos. Et quelquefois, ils sont obligés même d'aller sous l'eau. Et il y a même des récifs de coraux. Et vous voyez les éléphants bardés de choses absolument inouïes à porter, et dont les pieds effleurent les coraux sans les briser. C'est-à-dire que cet animal absolument massif, au fond, finalement, comme, tel qu'on le voit, tel qu'on le conçoit, eh bien, dans un cas présent, pareil, et d'une légèreté et d'une aisance absolument inouïe sous l'eau. Moi, ça me fascine. Et puis, on sait aussi que les éléphants, au moment où ils savent que c'est la fin, en quelque sorte, eh bien, ils savent où ils doivent aller pour terminer leur jour sans qu'on leur demande, et ils le font d'eux-mêmes. Et puis, voilà, et puis il y a plein d'autres choses que j'aime dans l'éléphant. Il ne faut pas non plus les chercher, voilà, sinon ils sont capables de rouer dans les brancards, et ça me ressemble assez bien.
C'est une jolie image, en tout cas.
Ouais.
Alors, si vous étiez un événement historique.
J'utiliserais le terme que je donne dans l'été des Lucioles, c'est-à-dire les années folles, que lui dit au fond sa maman, parce que elle lui explique que c'est pendant ces années-là que voilà qu'on faisait la fête, c'était après la guerre, etc. Et lui, il comprend pas qu'on attende qu'une guerre soit passée pour faire la fête. On pourrait faire la fête à n'importe quel moment.
Si vous étiez un type de musique.
Alors, ça dépend des moments, parce que la musique est très, très importante pour moi. D'ailleurs, j'écris beaucoup en musique. Je ne travaille pas mes livres ensuite. C'est-à-dire que j'écris mes livres assez vite, on va dire, dans le temps. Par contre, j'attends beaucoup avant de les rendre aux éditeurs, parce que je les travaille très longtemps. Et quand je les écris, par contre, étant donné que j'essaye de faire passer un certain nombre d'émotions, la musique m'aide énormément à faire passer les émotions. J'ai beaucoup travaillé sur l'album notamment de Golf Rap, qui est un album magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais écoutez-le un jour. C'est un album qui m'a vraiment troublé. Et puis, vous savez, quand vous aimez vraiment la musique, vous écoutez quelque chose, il y a quelque chose qui vibre, là, je ne sais pas, qui dans la colonne, là, vous savez, quelque chose qui vous fait un peu trembler, voilà, d'écouter de la belle musique, quoi, qui est quelque chose qui vous fait vibrer. Et je trouve que c'est une passerelle incroyable entre les mots et ce que je veux dire. C'est-à-dire que la musique m'aide énormément à construire une émotion. Et pour ça, par exemple, je suis capable de mettre le morceau en boucle et de le répéter à l'infini tant que la scène n'est pas suffisamment écrite comme je l'entends. Mmh. Et la musique m'aide énormément. Après, pour travailler, j'ai vraiment besoin du silence. Donc, si j'étais une musique, la musique de l'été des Lucioles, ça serait par exemple un air de l'Acmé de Léo Delibes, d'un des opéras de Léo Delibes, par exemple. Où ça pourrait être parce que c'est assez enchanteur, c'est assez guilleret, c'est assez léger, c'est assez aérien. Et puis je prendrai un morceau qui, moi, à chaque fois me vrille complètement, qui est un morceau qui fait partie du dernier album de Vanessa Paradis. C'est un album qui s'appelle Love Songs. Il y a un morceau qui dure 2-3 minutes qui s'appelle Le Rempart, avec un thème assez argentin, et qui, moi, à chaque fois, il y a une espèce de musique lancinante, et voilà, ça me rend, là c'est l'opposé, ça me rendrait plutôt triste, voilà. Mais je trouve que c'est des émotions telles quelles qui font partie de la vie, les deux vont bien ensemble, être triste et heureux.
Si vous étiez une saison.
L'été, sans hésiter, sans un moment, je déteste l'hiver.
C'est bientôt fini. Hein.
C'est pas un supplice, tout va bien.
Un pays ou une ville ?
Un pays au bord de la mer.
D'accord.
Voilà, j'aimerais bien d'ailleurs un jour finir ma vie quelque part au bord de la mer, si vous connaissez un mécène. Surtout, envoyez-le moi.
Une devise ou une citation ?
Une citation anglaise que j'aime beaucoup, que tout le monde connaît, qui est « Never explain, never complain ». Voilà, et qui dit bien ce que je ressens au fond de moi. C'est je n'aime pas les gens qui s'épanchent. Voilà, je n'aime pas les gens qui vous racontent tout ça. Dans les années où j'ai vécu mes dépressions, je me souviens dans les hôpitaux, il y avait deux types de malades. Il y avait ceux qui venaient s'asseoir à côté de vous sur un banc et puis qui vous déversaient leur vie comme s'ils vidaient leur poubelle. Et c'était insupportable parce que on est très à fleur de peau, on est très angoissé partout, partout. Ce qui se passe autour de vous, et donc quelqu'un qui vient vous raconter des horreurs sur sa vie, qu'il a été violé, qu'il a été battu, qu'il a été je ne sais quoi, et qui vous raconte tout ça avec moult détails. Bon, c'est pas fait pour vous arranger. Et en même temps, il y avait un autre type de malade qui venait s'asseoir, partager la cigarette que vous fumiez sur le banc, qui parlait peu, mais qui, au bout d'un moment, par ses échanges, par ses mots, vous apportait 10 fois plus que vos meilleurs amis qui venaient vous voir et qui n'osaient jamais vous dire quoi que ce soit, parce qu'ils ne savaient pas, il n'y a pas un vocabulaire quand on est malade, hein, il n'y a pas de dictionnaire pour soigner les malades, donc on ne sait jamais quel mot faut dire, on ne sait jamais ce qu'il faut faire quand on n'est pas bien. Donc et ben ces gens-là, moi, ils m'ont aidé à traverser cette période-là, et sans eux, je ne m'en serais jamais sorti. Donc voilà, c'est never explain, never complain, je trouve que c'est pas mal. Ne pas faire peser sur l'autre ce que vous n'aimeriez pas qu'on vous fasse à soi. Je trouve que même d'ailleurs, quand on traverse des périodes difficiles, faut mieux aller voir un médecin plutôt que de tout faire porter sur l'épaule d'une amie ou d'un ami qui n'a pas besoin forcément de ça. Et je trouve que un médecin, il est là pour ça. Et je trouve que c'est bien de savoir faire la part des choses.
Enfin, si vous étiez un mot de la langue française, c'est compliqué, hein?
Non,
Non.
c'est pas compliqué. En fait, si j'étais un mot de la langue française, je pense que il y a tellement de mots qui me plaisent dans la langue française. Donc là aussi, c'est très très difficile pour moi de choisir. Je suis incapable de choisir un mot de la langue française parce que on a une langue tellement belle et tellement riche, avec des mots à double, triple sens, avec des. Moi, je sais, quand je travaille, j'ai un dictionnaire, par exemple. Je sais pas si vous le connaissez. Parce que tous les auteurs ont des tas de livres autour d'eux et on a des dictionnaires du synonyme et tout ça. Et moi, j'ai un dictionnaire de la poésie qui est incroyable. C'est-à-dire que c'est un mot qui vous fait penser à un autre. Alors, par exemple, vous avez, bon, dans ce dictionnaire, il y a les prénoms. Donc, si je cherche un prénom, j'ai tous les prénoms, ça c'est classique. Mais après, ce sont des mots qui vous font penser à d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas tout à fait des synonymes, ce n'est pas la même chose. Et c'est un dictionnaire avec lequel je travaille beaucoup. Tu le connais? Oui, c'est ça. C'est un mélange d'analogies, mais qui te fait penser à des termes, si tu veux. C'est beaucoup plus beau que des synonymes. Tu vois, voilà, je travaille souvent avec ça d'ailleurs, parce que quand je cherche, je suis très obsédé par le mot juste. C'est comme un phrasé musical. Hein, si vous entendez à un moment donné une musique, vous entendez la note qui ne va pas, une note fausse, ça s'entend tout de suite. Et vraiment, le truc sonne. Quelqu'un qui chante faux, c'est horrible, quoi. Et une musique qui part, qu'on n'entend pas, c'est pas possible. Ben, un texte, c'est pareil. Moi, je lis souvent une phrase à voix haute et je cherche. Je suis très obsédé par ça, mais je suis très obsessionnel. Je cherche le mot juste qui fait qu'on va avoir l'impression que c'est très facile à lire jusqu'au bout. Mais avant que ça soit très facile à lire, je peux vous dire que les textes, il faut les travailler.
Le travail.
Et s'il y a une leçon à retenir de tout ça, c'est qu'il y a des tas d'écrivains que j'aime beaucoup par ailleurs, mais qui devraient apprendre un tout petit peu à travailler beaucoup leurs textes. Ça serait bien. Voilà.
Bon, bien, merci infiniment
Merci à vous.
pour ce joli moment passé en
Merci,
votre
Gwenaëlle.
compagnie.
Merci à vous.
On va applaudir, je pense.